Bonjour et bienvenue dans les podcasts Channel Healthcare, des podcasts pour tout comprendre sur l'environnement de la santé.
Bonjour Caroline, merci de me recevoir. On est donc à la pharmacie des Aigles à Gouvieux. Alors je suis venu te voir parce que je sais que tu es pharmacien depuis quelques années maintenant et j'aimerais qu'on parle du métier de pharmacien. Alors déjà, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bonjour Stéphane, effectivement je travaille à Gouvieux, je suis installée en tant que titulaire depuis 3 ans.
Très bien, écoute, parfait. On va revenir sur le métier de pharmacien et comment on fait pour arriver à ce métier. Et donc la première question, tu peux nous donner le cursus d'un pharmacien d'officine, donc quelles études pour arriver à ce métier de pharmacien d'officine ?
Alors, pour être pharmacien d'officine, aujourd'hui, il faut passer par la première année qui s'appelle la PACES. Et puis après ça, tu as une première année concours, puis tu as 5 ans pour terminer ton diplôme de pharmacien. Et donc, tu as une spécialisation à partir de la 4e année où tu peux t'orienter soit vers la pharmacie d'officine, soit vers l'industrie, soit vers biologiste, soit pharmacien hospitalier. Donc voilà, en tout, c'est 6 ans pour être pharmacien titulaire.
Donc 6 ans, tu termines tes études par une thèse, un doctorat.
Une thèse, voilà. Donc c'est comme un mémoire et que tu présentes. À l'occasion de cette présentation, tu prêtes serment pour devenir effectivement pharmacien.
Oui, parce qu'on en reparlera après. Forcément, métier dans le domaine de la santé, avec une éthique, des règles, donc ça c'est codifié. Alors, diplômé, docteur en pharmacie, comment on fait pour s'installer ?
Alors, c'est relativement simple, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait valider sa 6e année d'officine avec son stage officinal de 6 mois, avoir passé sa thèse, et il faut s'inscrire sur la section A au niveau du conseil de l'ordre des pharmaciens, et puis après, il faut identifier une pharmacie qu'on a envie d'acheter, et puis justifier d'au moins 6 mois d'exercice avant de pouvoir prétendre à s'installer.
Tout ça donc est cadré, c'est contrôlé par le conseil de l'ordre. Je crois même qu'il y a un quota de pharmacie en fonction du nombre d'habitants. Ça, on peut pas avoir.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a près de 20 000 pharmacies en France. Et ça, c'est déterminé en fonction, effectivement, d'un bassin de population. Ça évolue, je saurais plus te dire où on en est.
C'est juste pour avoir l'idée. Et on reviendra sur cette notion des 20 000 pharmacies, puisque récemment, il y a eu une grève. On en reparlera un petit peu plus tard. Ensuite, l'étape, c'est de racheter une pharmacie. Alors, aujourd'hui, on en est où ? Parce que racheter une pharmacie, c'est un marché, il faut l'appeler comme ça, qui évolue. Est-ce que c'est facile, difficile ? Est-ce que les pharmacies sont chères ? Où en est le marché, on va dire, du rachat d'une officine ? Souvent, on achète une officine qui existait déjà avant.
Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a plus de création d'officine aujourd'hui. Donc, on rachète une pharmacie qui est déjà créée en fonction, effectivement, de la population dont on a parlé. Il faut effectivement identifier une pharmacie qui a du potentiel. Donc, en général, soit on fait du porte-à-porte, et on va approcher les pharmacies qui nous intéresseraient. Soit on passe par un transactionnaire, c'est un peu comme un agent immobilier pour les pharmacies, et on va évaluer un peu quelle est la capacité de développement de l'officine en fonction à la fois du développement de la population autour, de la possibilité ou pas d'avoir des prescripteurs qui s'installent, parce que c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est un peu d'avoir un volume d'ordonnances qui est généré par les prescripteurs aux alentours de la pharmacie. Et puis voilà, de savoir si elle est déjà au maximum de sa capacité ou si on a des possibilités avec des travaux, avec une certaine orientation qu'on peut donner à la pharmacie pour pouvoir la dynamiser. Il y a quelques années, ça s'achetait 100% du chiffre d'affaires annuel, une pharmacie. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt autour de 80-85% du chiffre d'affaires.
Donc, il y a une évaluation du chiffre d'affaires et ça va baser un prix. Donc, voilà. Là, ce que je comprends, c'est qu'en fait, la tendance est plutôt baissière. Une pharmacie se rachète ou se revend, suivant de quel camp on est, moins bien qu'il y a quelques années.
Oui. Et puis ça, c'est beaucoup lié justement aux problématiques de déserts médicaux, et il y a beaucoup de médecins généralistes qui partent en retraite, donc les prescripteurs qui s'en vont, et qui font que du coup les perspectives d'évolution des pharmacies sont plus vraiment à la hausse, quoi.
Ça c'est intéressant, on en reparlera après, puisque je voudrais qu'on évoque les difficultés. On va continuer sur ce parcours du pharmacien. En rentrant dans le cœur du métier, au quotidien, c'est quoi les rôles principaux du pharmacien d'officine ?
Alors, le rôle du pharmacien, à la base, c'est le contrôle, la validation des ordonnances, c'est la dispensation des médicaments dans le cadre du bon usage. Donc, voilà, on est garant de tout ce qui est dispensé dans la pharmacie, que ce soit avec ou sans ordonnance. Donc, d'adapter à la fois le bon traitement à la pathologie du patient, à la bonne posologie, et puis sur la bonne durée de traitement. Le rôle du pharmacien aussi, c'est de collaborer avec les autres professionnels de santé du secteur pour assurer une bonne fluidité du parcours de soins. Donc, on travaille aussi sur des actions de dépistage, de prévention de certaines maladies. On est impliqué aussi dans la vaccination. C'est aussi un axe qui a beaucoup évolué ces derniers temps. Il y a aussi un volet participation à la permanence des soins. On assure les gardes les nuits, les week-ends.
Alors ça, justement, je t'interromps parce que j'ai été très surpris en tant que bon parisien et n'ayant jamais connu un officinal dormant dans sa pharmacie. Dès qu'on sort de Paris, en province ou partout en France, les officinaux de secteur se partagent des gardes où il est présent dans sa pharmacie et doit répondre aux demandes d'urgence.
Ça fait partie du rôle du pharmacien d'assurer effectivement cette permanence des soins. Donc on a, en tout cas sur mon secteur de garde, ça peut être organisé de façon différente sur d'autres secteurs, mais en ce qui nous concerne, on a une nuit par mois et 3 week-ends dans l'année en moyenne où on se doit de rester à la pharmacie pour répondre aux urgences, aux patients qui sortent des urgences hospitalières ou des SOS médecins ou des urgences qui peuvent paraître moins graves, mais voilà, des parents qui ont plus de lait pour donner à leur nourrisson, et donc voilà, on est là pour répondre aux besoins.
Donc en tout cas, vous assurez cette mission de permanence des soins. Alors, moi, je voudrais savoir, le métier a évolué. Récemment, il y a eu, quand je dis récemment, on va dire dans les 10 dernières années, un petit peu moins, il y a eu des rôles supplémentaires qui ont été confiés aux pharmaciens. Mmh. Et puis là, très récemment, puisqu'on est début juin et je crois que ça date de quelques mois, il y a eu de nouveau encore des missions supplémentaires. Est-ce qu'on peut aller sur ce thème-là? Depuis une dizaine d'années, avant, les pharmaciens faisaient de la délivrance de médicaments, c'était vraiment restreint à ça. Qu'est-ce qui est arrivé comme rôle supplémentaire qu'on vous a confié et comment ça se passe?
C'est vrai que ça accompagne un petit peu la désertification médicale, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui étaient avant dans l'escarcelle du médecin généraliste, qui viennent petit à petit plus dans les missions qui sont confiées aux pharmaciens, pour dégager du temps aux médecins aussi, pour gérer d'autres patients qui sont plus problématiques. Donc, c'est vrai qu'à la base, on nous a confié des entretiens pharmaceutiques sur un certain nombre de domaines, l'asthme par exemple, les patients qui étaient avec des traitements anticancéreux, les anticoagulants.
Donc concrètement, l'entretien pharmaceutique, c'est quoi son objectif? Parce que là, tu me cites des situations de maladie chronique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu reçois un patient qui a une berceuse?
par exemple.
Quand tu reçois un patient qui est asthmatique, par exemple, c'est l'objectif de cet entretien pharmaceutique?
Alors, ce qui nous est demandé par les autorités sanitaires, c'est de faire des entretiens très formalisés, où on s'assoit pendant un temps donné avec le patient, théoriquement une demi-heure avec chaque patient, où on fait plusieurs fois dans l'année, par exemple pour un patient asthmatique, un bilan en fait de sa prise en charge, de là où il en est avec son traitement, là où il en est avec sa pathologie, s'il a bien compris l'objectif de son traitement, les interactions médicamenteuses, etc. Donc l'objectif, c'est d'assurer le bon usage du traitement, l'observance du malade. Donc on est censé faire plusieurs entretiens pharmaceutiques dans ce cadre-là avec les patients dans l'année.
Donc ça, c'est du temps où tu n'es pas au comptoir, tu ne veux pas aider ton équipe, donc c'est payé?
Alors jusqu'alors, c'est vrai que c'est très chronophage, c'était pas très bien rémunéré parce qu'il fallait motiver les patients à faire ça plusieurs fois, à faire cet entretien plusieurs fois dans l'année pour espérer avoir une rémunération en fin d'année sous forme d'une ROST. C'est un acronyme qui définit un niveau de rémunération en fonction des actes qui sont faits. Mais c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer et désormais, chaque entretien qui sera fait avec le patient sera rémunéré. Au-delà des entretiens pharmaceutiques, avec le Covid aussi, on nous a donné d'autres missions, notamment en termes de dépistage, avec les TROD, donc les tests rapides d'orientation diagnostique, donc d'abord les tests antigéniques pour le Covid, puis pour les angines.
Je me permets juste les angines, parce qu'on a mal à la gorge, il peut y avoir des angines virales, il y a des angines où une bactérie est responsable, et ce test permet de savoir si la bactérie est là, et dans ce cas-là, l'antibiothérapie est indiquée, et uniquement dans ce cas-là, donc voilà, ça vous permet ensuite de donner antibiotiques si jamais le TROD est positif.
Exactement. Et de la même manière, dans le cadre des cystites, on a maintenant aussi la possibilité de faire des tests urinaires à l'officine pour les patientes qui se présentent avec des symptômes d'infection urinaire, pouvoir même désormais, depuis très très récemment, prescrire des antibiotiques pour des cystites simples.
Alors justement, j'allais te demander, tu l'as dit, donc le terme est vraiment le terme de prescrit. Hein. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Vous avez maintenant une habilitation à prescrire.
Ouais, alors, le décret, chercher le décret, en fait. Je veux dire,
mais en tout cas, alors, attends, je ne sais pas si je peux mettre...
C'était un... depuis le 17 juin.
Oui, c'est très récent, Jean. Donc c'est vraiment de la prescrit.
Enfin, donc peut... effectivement, depuis le 17 juin 2024, on est désormais autorisé à prescrire des antibiotiques en suivant un arbre décisionnel et des recommandations très claires dans le cadre des cystites et des angines bactériennes.
Donc bon, le terme de prescrire, c'est vraiment, on va dire, la même chose que le médecin. Donc ça donne le droit à délivrer le médicament qui est délivrable que sur ordonnance et aussi au remboursement par la sécurité sociale.
Oui, mais qui est extrêmement encadré avec des recommandations et surtout qui se fait sur la base d'un test positif.
On entend bien que tout ça, c'est pour améliorer la prise en charge, surtout dans des situations où on a des déserts médicaux et là où vous, officinaux, vous êtes présents et vous êtes acteurs de santé de proximité quand les médecins ne sont pas disponibles ou ne sont plus là. D'autres éléments qui ont été ajoutés à vos prérogatives ou en cours d'ajout, puisque là on est en effet le 27 juin et il y a peut-être des choses très récentes.
On a la vaccination aussi qui est rentrée aussi dans nos missions. Vaccination, toutes les vaccinations à partir de 11 ans, en dehors des vaccinations du voyage. Oui, de la diphtérie, tétanos, polio, voilà. Et aussi important, dans le cadre de la prévention, les infections chez les jeunes contre le papillomavirus.
L'HPV.
Ouais. Donc également aussi dans le cadre de la prévention, ce qui est important, c'est qu'il y a des vaccins qui sont encore sous-utilisés en France, comme celui contre le papillomavirus. Mmh. Et donc on a aussi cette mission de développer la vaccination chez les jeunes pour prévenir le papillomavirus. Quand dans certains pays, on est à 100% de la population vaccinée, chez nous, on est encore très très loin. Donc ça fait partie de nos missions de santé publique.
Et on rappelle, je me permets de dire ça, que c'est un vaccin pas que pour les filles, on vaccine les filles et les garçons.
Et les garçons, à partir de 11 ans, entre 11 ans et 19 ans, et effectivement c'est pour protéger les filles, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des conséquences avec des cancers qui se développent chez les garçons.
J'ai vu en visitant la pharmacie une cabine dédiée à la téléconsultation. Donc c'est quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta pratique par rapport à ça?
Alors toujours dans le même esprit de répondre à la demande et aux besoins des patients en termes de suivi médical, c'est vrai que ça m'a tenu à cœur de mettre en place cette cabine de téléconsultation dès que je me suis installée. Et c'est vrai que ça répond aux besoins dans le sens où ça permet de voir un médecin dans les 15 minutes. C'est bien sûr pas un médecin qu'on a l'habitude de voir, mais il y a des outils diagnostiques et des outils de suivi à distance qui permettent de regarder dans les oreilles, de regarder au fond de la gorge, de prendre la tension, donc qui permettent tout à fait une consultation à distance pour un certain nombre de pathologies. Et donc cette téléconsultation, elle est ouverte à tout le monde et notamment aux enfants aussi à partir de 3 ans.
Il y a une rémunération sur cet acte-là? Encore du temps, on passe pas derrière le comptoir?
Alors c'est vraiment un service qu'on offre aux patients, parce que la location de cette cabine, elle coûte aux pharmaciens. Et c'est rémunéré 1 euro par ordonnance délivrée suite à la téléconsultation.
D'accord, donc bon, il y a encore du travail à faire. On va reparler en fait de tous ces éléments qui évoluent et on redira un petit mot, mais j'avais fait un podcast sur la grève des pharmaciens qui avait eu lieu le 20 mai. Si je te dis, c'est quoi la journée type d'un titulaire? Enfin, c'est compliqué comme question, mais bon, on va essayer de faire une journée type.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de journée type, donc c'est ce qui fait l'intérêt du métier, c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver au cours de la journée et c'est souvent plein de surprises, surtout pour un titulaire, parce qu'il y a beaucoup d'imprévus à gérer, voilà, une fuite d'eau, un frigo qui tombe en panne en pleine nuit... Donc non, mais la journée type, surtout en ce moment, c'est qu'on essaie d'arriver avant l'ouverture pour gérer les médicaments en rupture, tous les manquants de la veille. Et donc ça nous prend un certain temps, donc il vaut mieux qu'on s'y prenne précocement, donc avant l'ouverture de la pharmacie. Après, on passe beaucoup de temps au comptoir tout au long de la journée à délivrer les ordonnances, à conseiller les patients. Et puis après ça, le rôle du titulaire, il va varier en fonction de la taille de l'officine. Donc moi, je travaille, j'en ai pas parlé, mais je travaille dans une pharmacie qui est de taille moyenne, c'est-à-dire qu'on est 5 dans l'équipe, avec 2 pharmaciens, 2 préparateurs, et donc un titulaire, avec plus ou moins aussi des étudiants qui nous rejoignent par moment. Et donc, dans le rôle du titulaire, il y a aussi la gestion du personnel, la gestion des plannings, le recrutement, et la réalité, c'est qu'on bouche aussi beaucoup les trous, donc on passe beaucoup de temps au comptoir pour remplacer les gens qui sont absents. Voilà, on passe du temps dans la coordination avec les professionnels de santé du secteur.
Donc on parlait de rupture de stock, j'imagine, ça nécessite des appels aux médecins pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on substitue par un autre médicament, il faut s'en aval.
Exactement. Ouais. Donc effectivement, quand on trouve aucune solution pour pouvoir délivrer le médicament qui est prescrit, on fait appel au prescripteur, et parfois on met beaucoup de temps à avoir le prescripteur en ligne. Ça fait partie des choses qu'il faut gérer.
Alors justement, puisque tu as un tout petit peu évoqué les tailles d'officine, etc., donc c'est quoi ton équipe officinale, ou une équipe officinale, c'est composé de quoi, à minima?
Globalement, c'est composé donc d'un titulaire, après avec plus ou moins des pharmaciens assistants qui vont épauler le titulaire et le remplacer quand il est absent, et notamment prendre la responsabilité de la délivrance des médicaments quand le titulaire est absent.
On rappelle qu'on ne peut pas ouvrir une officine et donner des médicaments s'il n'y a pas un pharmacien présent.
Il faut qu'il y ait toujours un pharmacien présent sur place pour avoir la possibilité de délivrer les médicaments. Et donc dans la pharmacie, on a aussi des préparateurs qui n'ont pas le même cursus d'études, mais qui vont globalement au quotidien un peu les mêmes tâches, c'est-à-dire dans la délivrance des médicaments. Mais tout ce qu'ils vont délivrer sera sous le contrôle du pharmacien. Et après ça, dans les pharmacies de taille plus importante, on peut avoir aussi des rayonnistes, des secrétaires, des gens qui vont faire ce qu'on appelle du merchandising, c'est-à-dire mettre en place les rayons. Et finalement, c'est vrai qu'il y a eu aussi une annonce du gouvernement sur une réflexion menaçant le monopole pharmaceutique et la possibilité de mettre en ligne les médicaments. Donc c'est vrai que quand on regarde ce qui a été entrepris par les pharmaciens depuis quelques années, et notamment avec le Covid, tout ce qu'on nous demande en plus, les missions qui nous ont été confiées en plus, l'investissement que ça a été pour tous les pharmaciens, que c'est aussi compliqué de comprendre pourquoi on menace notre monopole et on propose d'avoir les médicaments en ligne, alors qu'en France, tout un chacun a une pharmacie à moins de 10 minutes de chez lui, grâce au numerus clausus et à la répartition des officines sur le territoire.
Donc vous êtes encore une des rares professions de santé à avoir un vrai maillage sur le territoire, là où on sait que les médecins manquent, les spécialistes manquent, les services hospitaliers et les urgences ferment, donc oui, c'est incompréhensible du coup.
On est le dernier professionnel de santé à être disponible pour les patients sans rendez-vous, accessible gratuitement et vers qui on peut se tourner quand on a besoin d'un conseil de santé.
Donc c'est compréhensible et c'est très clair, et on va suivre ça de près. Allez, on va terminer sur une note un peu rigolote. Si je te demande une ou plusieurs anecdotes à nous raconter que tu as pu vivre, expérimenter.
Alors, ce que je voulais partager avec toi, c'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup de sens à plein d'égards, donc par les missions de santé publique. Alors, anecdote, le métier d'officinal, ça a été une reconversion pour moi, donc il y a 3 ans, et ça a été motivé par une recherche de sens. Et je trouve que c'est un métier qui a du sens à plein d'égards. Toutes les missions dont on a parlé et qui sont des missions de santé publique qui sont importantes, mais aussi par la relation de confiance et de proximité qu'on établit avec les patients au quotidien. Et c'est vrai que cette relation, elle nous fait sortir souvent de nos missions, et ça nous arrive d'aller aider un patient à régler une télévision. Ça nous arrive d'être appelé en urgence un soir à la fermeture de l'officine parce que un patient ne peut pas se déplacer, il faut lui apporter ses médicaments. C'est aussi passer du temps à discuter avec Martine qui a plus toute sa tête et qui passe tous les jours pour nous demander si on n'aurait pas du lait, du yaourt ou de la confiture à lui vendre. Et donc voilà, c'est cette proximité et ce lien qu'on crée aussi avec les gens qui donnent du sens au quotidien et qui nous fait nous sentir utiles. On ne sait jamais de quoi la journée va être faite.
Et il y aura d'autres Martine qui peuvent venir demander d'autres choses. Mais c'est vrai qu'on en parlait en préparant ce podcast, les gens ont besoin de parler, et surtout les gens malades. Aujourd'hui, les médecins, ils réduisent le temps de leur consulte, ils sont surchargés. Au comptoir, c'est vraiment un endroit où les gens, surtout les gens âgés, qui ont des maladies chroniques, peuvent s'exprimer ou prendre le temps de les écouter, même si c'est pour raconter un bout de leur vie, c'est pour raconter un peu le quotidien sur leur état digestif, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de professionnels de santé qui sont disponibles pour l'écoute. Et ça, c'est du temps, en fait, que vous passez, mais qui ne rapporte rien, en fait. C'est du temps là-dessus.
Ouais, mais c'est du temps qui est important. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, à mon équipe et à moi, c'est de toujours trouver d'être en recherche de solutions face aux problématiques qui sont évoquées par les patients. C'est, si c'est un médicament qui leur manque, si c'est un problème d'accès à un médecin, on passe du temps, on essaie de trouver des solutions, et c'est ce qui est aussi gratifiant quand on sait que, bah voilà, qu'on a pu être utile.
Merci beaucoup Caroline, je pense que c'est très clair, je pense que maintenant on connaît bien le métier de pharmacien, et j'ai été content de visiter ta pharmacie des Aigles à Gouvieux. Merci Caroline.
Merci à toi, avec plaisir.